RTF Limoges, le magazine culturel.
Bonjour, bienvenue dans le magazine culturel. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Zoé Lazo, autrice du livre Le sang du bonheur. Bonjour, Zoé. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet ouvrage, du coup, de quoi ça parle ?
Alors, Le sang du bonheur, c'est un village implanté en Limousin. Je me suis servi, en fait, de l'événement de la guerre de Cent Ans. Le prince noir, prince de Galles, en 1370, a saccagé la ville de Limoges. Et j'ai décidé d'inventer le fait que Bleu-Noix soit saccagé aussi par le prince de Galles parce qu'il cherchait un petit peu un endroit où poser ses armées. Et en fait, en arrivant dans ce village qui n'avait encore pas de nom, est apparu un ciel bleu-noix. Et il a décidé de le nommer en français bleu-noix parce que le ciel était d'une couleur magnifique et pour lui, c'était comme une révélation divine. C'était comme si Dieu l'accueillait dans ce village, comme s'il était le bienvenu. Dans ce village, il y a une communauté franco-britannique. Voilà, c'est une communauté assez fermée. Donc, vous imaginez un petit village de Limousin, quand même quelques habitants. Et nous allons suivre les aventures donc de Corentin de Calaisy, donc un inspecteur de police extrêmement raide, extrêmement à cheval sur le code policier, et son assistante Hermione Savrodek, et qui vont résoudre des meurtres assez macabres. Pour les âmes sensibles, s'abstenir, mais il y a pas mal de beaux meurtres, je dirais, dedans.
Comment vous en êtes arrivé à écrire ? Quel est votre parcours, en fait, globalement ?
Alors, j'ai commencé à écrire vers l'âge de 5-6 ans et j'ai commencé à écrire des petites nouvelles policières. Alors au début, c'était avec des animaux, parce que j'aimais beaucoup les animaux. Et ça a commencé... En fait, les protagonistes, c'était un chien et une poule. Donc la poule était l'inspectrice et le chien était l'assistante. Et en fait, c'était des petites aventures comme ça. Voilà, il fallait retrouver le blaireau dans la forêt pourpre, il fallait explorer une mystérieuse grotte. Et à l'âge de 12 ans, j'ai écrit mon premier roman. Alors c'était pas un policier, c'était un roman érotique, voilà, faut bien commencer. Puis après, vers 13-14 ans, j'ai écrit plutôt des romans policiers historiques, et puis vers 16-17 ans, j'ai commencé à découvrir les romans scandinaves, les thrillers scandinaves, et en fait ça change beaucoup, je trouve, des thrillers français, parce que la particularité des auteurs comme Camilla Grébé ou Arnaldur Indridason, c'est qu'ils arrivent à instaurer une atmosphère extrêmement lourde, parce qu'on sait très bien que dans les pays scandinaves, ils n'ont pas de soleil 6 mois de l'année, donc on a déjà une atmosphère extrêmement lourde comme une chape de béton, et souvent, et c'est prouvé scientifiquement, les gens peuvent devenir dépressifs ou peuvent se sentir très mal. Et justement, je me suis inspirée en fait de cette ambiance des pays scandinaves et du coup de ces auteurs pour instaurer à ma façon une ambiance macabre aussi dans Le sang du bonheur. On est à chaque fois dans les romans de ces auteurs là c'est une petite communauté très fermée, avec ses principes, leurs secrets qu'il ne faut surtout pas déterrer. Et souvent, l'enquête commence à partir de là, à partir de cette communauté qui est sordide et dont on protège souvent le meurtrier. Et j'ai voulu faire ça avec Le sang du bonheur, en reprenant cette atmosphère. Voilà, on a cette communauté franco-britannique et puis on a une enquête. On essaye de se protéger un petit peu les uns les autres. Donc voilà.
Et on se demandait pourquoi avoir choisi cette époque-là, parce que c'est quand même pas commun. Je veux dire, quand on pense à une jeune autrice, on pense pas forcément à ce genre de période-là. Donc pourquoi forcément ce...
En fait, c'est une époque qui m'a toujours plu. Je me sentais beaucoup plus inspirée pour faire une enquête policière dans cette époque-là plutôt que dans une époque moderne. En fait, j'ai toujours beaucoup aimé l'histoire. Toujours bien aimé l'architecture du Second Empire. Voilà, les toits de chaume. J'aime beaucoup aussi l'architecture britannique. Donc, c'est vrai que cette époque-là me semblait idéale pour instaurer. Voilà, ils avaient beaucoup de cottages. Enfin, les cottages sont encore à la mode, mais c'est vrai que cette architecture m'inspirait pour justement faire cette histoire, parce que on a l'impression d'être dans un petit cocon, c'est très confortable. Et je sais pas, je me voyais pas faire une enquête policière pour l'instant dans un monde moderne. Et justement, mes autres romans, enfin, j'ai écrit un deuxième roman, ça se passe en Angleterre victorienne par exemple, et je me sens beaucoup plus inspirée par les événements qui s'y passent, la pauvreté. J'aime beaucoup découvrir les habitudes de la population, les classes bourgeoises, comment elles s'habillent, leurs habitudes. c'est quelque chose qui me passionne. Donc c'est pour ça en fait que j'ai écrit ce roman à cette époque.
Ouais, c'était une évidence quoi.
Oui, pour moi c'était une évidence, oui, absolument. Okay.
Ça, mais du coup, il y a quand même tout un travail de recherche sur les époques à chaque fois.
Oui, alors en fait, il faut savoir que enfin le sang du bonheur s'appelait pas comme ça à la base, il s'appelait La Gueule Rouge. Je l'ai commencé le 18 décembre 2023 et je l'ai terminé 4 janvier. J'ai écrit très très vite.
Wow.
Je l'ai écrit vraiment très vite et en fait j'ai eu plusieurs périodes où j'écrivais vraiment avec passion. Des fois j'arrêtais, je recommençais. Et en fait le truc c'est que ce roman je l'ai beaucoup modifié et puis en fait j'avais pas vraiment fait de recherche au début. Mmh. Je me suis dit je vais m'inspirer, je vais juste reprendre en fait ce que je sais. Mais sauf que ça suffit pas dans un roman, surtout dans une période comme ça. C'est mon éditeur qui m'a vraiment donné ce déclic, qui m'a dit en fait faut vraiment que tu fasses des recherches sur l'architecture pour pas que ton écriture soit floue et que tu n'aies rien à dire, parce que si tu décris juste oh il y a un cottage avec je sais pas une petite barrière et des fleurs, non ça suffit pas, il faut quand même des détails. Et j'aime beaucoup justement le détail, donc vraiment il y a eu pendant la correction et la relecture j'ai fait beaucoup plus de recherches approfondies sur les façades, sur l'intérieur. Comme je suis j'aime beaucoup les détails, je me suis dit le travail de recherche est quand même costaud, il faut pas faire d'anachronisme, c'est ça le plus dangereux. Et je sais que pour le premier jet que j'ai présenté à mon éditeur, il y avait pas mal d'anachronismes, donc j'ai dû modifier pas mal de choses. Et bah, il y a des éléments qui ont été assez difficiles à trouver, j'avoue.
En parlant de l'éditeur, du coup, comment ça s'est passé la rencontre avec la maison d'édition ? Est-ce que c'est toi qui as été vers eux ? Est-ce que c'est l'inverse ?
Alors, cette année, donc, les Master Éditions, en deuxième année, organisaient un salon étudiant du livre à Limoges. Donc, ils ont invité l'ensemble des éditeurs régionaux. Et je me souviens, c'est une camarade de ma classe qui nous a donné un formulaire pour ceux qui voulaient présenter leur roman. Donc, moi, j'y croyais pas trop parce que j'avais regardé un petit peu les éditeurs et ça correspondait pas trop en fait à ce que j'écrivais, mais je me suis dit bah on y va quand même, ça peut être une chance. Donc j'ai envoyé le formulaire et le dernier jour du salon du livre étudiant, donc le 7 mars, j'étais désespérée. Vraiment je me suis dit bon bah il y a personne qui va me prendre. Et finalement à 11h pile, un mail justement de l'éditeur qui me dit votre roman m'intéresse, est-ce que vous pouvez vous rendre sur place. Donc moi ni deux, j'y vais, je lui explique le synopsis parce que sur le formulaire fallait faire une petite fiche descriptive sur les personnages, sur le synopsis, etc. Donc je lui explique plus en détail mon histoire et il me dit bah ça m'intéresse beaucoup, justement je cherche des histoires qui ont lieu sur le territoire limousin, donc en fait votre histoire m'intéresse. Donc je me dis mais waouh, enfin waouh. Donc il m'a demandé de lui envoyer le roman en PDF. Je me suis dit bon, je vais peut-être pas avoir de réponse, peut-être qu'il va pas aimer. Et le dimanche, il me proposait un contrat d'édition et de se revoir pour justement faire le travail de relecture et de correction. Donc franchement, ça m'a accueilli. Donc je m'y attendais pas du tout, surtout de retoucher ce roman en particulier. Je m'y attendais pas. Je pensais que j'allais le mettre dans un tiroir puis on en parlait plus. Mais vraiment, ça s'est réalisé.
Et du coup, pourquoi ce genre-là et pas un autre? Est-ce que vous aviez envie, parce que bon, vous parliez d'un roman érotique quand vous étiez petit, bon, je pense que vous êtes un petit peu éloigné de ça, mais est-ce que du coup, il y a d'autres genres qui vous plaisent ou c'est vraiment le policier et rien d'autre ?
Vraiment, c'est vraiment le genre policier. Depuis que je lis, donc depuis l'âge de 5-6 ans, enfin, j'ai lu différents genres, mais vraiment, le genre policier, c'est vraiment ce qui me passionne, parce que justement, je fais d'ailleurs mon mémoire de création dessus, je m'intéresse aux populations miséreuses, en fait, aux fantasmes des classes bourgeoises, justement, sur ces populations qu'on a tendance beaucoup à animaliser. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans le policier, c'est justement, je ne veux pas faire tuer mes personnages pour les faire tuer. Voilà, pour moi, ça n'a pas de sens. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment montrer que le meurtrier a une part viscérale qui ne veut qu'être extériorisé en fait. Et en fait je pense que chacun et chacune d'entre nous on a cette part viscérale, pas forcément de meurtrier, mais on a cette part qu'on essaye d'enfouir et qui ne demande qu'à ressurgir lorsqu'un événement vient nous frapper. Et souvent mes meurtriers et meurtrières aussi ont cette part viscérale et c'est ce qui me passionne en fait, c'est pourquoi ces personnes tuent, pourquoi ce mode opératoire, pour faire quoi, est-ce que les crimes sont utilitaires ou si c'est juste des pulsions. Donc en fait pour moi le genre policier, il y a cette partie viscérale, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'ambiance, l'atmosphère. Je m'intéresse aussi beaucoup à leur enfance, à leur passé, entre guillemets les circonstances atténuantes, on dit souvent ça en justice, les circonstances atténuantes qui font que ces personnes-là ont agi. Donc en fait, c'est ça qui m'intéresse. Et vraiment, j'arrive pas à me détacher du genre policier parce que dans ma bibliothèque, il y a énormément de romans policiers, surtout scandinaves. Et je pense que bah ouais, c'est un univers qui me passionne au-delà des meurtriers. D'ailleurs, j'aime bien aussi la figure de l'inspecteur. J'aime bien cet inspecteur vraiment très carré aussi. Mais finalement, la question qui se pose, c'est est-ce que cet inspecteur très hygiéniste, est-ce qu'il ne pourrait pas être aussi un meurtrier ? C'est ça aussi.
Pour revenir un peu à l'aspect visuel, lourd, on va parler de l'illustration. Comment vous avez eu l'idée de cette illustration ? Qui est l'illustrateur ? Comment c'est venu ?
Alors, l'illustrateur, c'est Aurélien Morinière, donc qui fait des dessins vraiment magnifiques. Alors, au début, l'illustration, je m'imaginais, certes, une petite fille en robe victorienne, avec des vitraux d'église qui explosent, mais c'était trop difficile, en fait, à réaliser, et je comprends, surtout à la main, parce qu'il a réalisé à la main. Et vraiment, je voulais qu'en voyant, en fait, cette couverture, le lecteur se dise... Ah oui, donc là on rentre vraiment dans un monde peut-être un peu religieux, peut-être un peu surnaturel, on ne sait pas trop. Et en fait, ce que je veux vraiment montrer, c'était cette poupée, parce que elle est vraiment au centre de l'intrigue. Cette jeune fille qui vénère cette poupée, je ne vais pas vous spoiler, mais voilà, donc ça a beaucoup d'importance. Et surtout, ce que je voulais représenter, c'était aussi cette vague de sang, évidemment, qui est caractéristique du polar. Donc je sais que la première fois qu'Aurélien Morinière a fait cette couverture, j'ai eu un coup de cœur, parce que c'est ce que j'imaginais. C'est
exactement,
ouais, mais même si j'imaginais, oui, quelque chose de fantastique avec les vitraux de l'église qui explosent, pour moi cette couverture était très bien. On voit les faisceaux de lumière comme une sorte de vénération. Donc ouais, quand il a dessiné cette couverture, j'étais très émue. Je me suis dit, wow, c'est ma couverture et c'est vraiment ce que j'attendais, quoi.
Vis-à-vis de ce que vous avez dit tout à l'heure et du nombre de romans que vous avez écrits depuis que vous êtes toute petite, est-ce que pour vous ça a toujours été du coup une évidence, enfin, c'était sûr qu'un jour il y a un livre qui allait être édité pour vous, ou est-ce que c'est quand même arrivé et ça s'est concrétisé quand même plus récemment avec votre licence ou votre master de fabrique de la littérature?
Être publié, c'est un rêve de petite fille, mais vraiment, je pensais pas comme une évidence. Je me disais, bon, ça va arriver un jour. Ça a été vraiment une grosse surprise pour moi d'être publié cette année, et vraiment, j'y croyais pas. Donc, je pense que le master que je fais, donc fabrique de la littérature, a aidé, parce qu'on fait de la création aussi littéraire, et donc on a exploité aussi d'autres thèmes. On a fait un gros projet avec une de nos professeurs, donc de microfiction, où il fallait écrire sur différents thèmes, et je pense que ça m'a aidé à me dire, bon, va falloir que j'exploite quand même d'autres thèmes, parce que le policier, c'est bien, mais je me suis tout de suite dit, si je m'intéresse à d'autres thèmes, je pense que ça peut aussi nourrir mon écriture. Donc vraiment, la publication, je me suis dit, perdu pour perdu, il faut que je profite de chaque opportunité, parce que là vraiment, le salon du livre, j'ai même pas réfléchi, je me suis dit, j'y vais, et puis c'est pas grave, si ça c'est pas, évidemment je serai très déçue. Oui, ça a été très soudain.
Et est-ce que du coup, maintenant que vous êtes lancé, est-ce que ça vous a donné envie, si c'était pas déjà le cas, d'en faire carrément votre métier, d'en vivre, ou est-ce que vous avez d'autres passions à côté qui...
J'aimerais beaucoup en vivre, donc continuer à écrire, à essayer de publier, travailler à côté, parce que je pense que je ne pourrais pas passer toute ma vie en fait à juste écrire, c'est pas possible. De rester enfermé, il faut que je sorte, faut que j'ai du contact, faut que je fasse autre chose à côté, parce que bah, le processus d'écriture, c'est lourd, hein. Il y a plusieurs fois sur ce roman, en plus, je me suis arraché les cheveux pour savoir ce que j'allais faire comme scène et tout, donc c'est douloureux, hein. En tant qu'écrivain, on a des instants, enfin des périodes de bonheur, on se dit, punaise, ce matin, je me réveille, je vais écrire cette scène, c'est génial, j'ai ressenti plusieurs fois ça. Et il y a des fois, on a complètement envie d'abandonner. Oui, je veux en faire mon métier, mais je veux faire autre chose à côté. Je sais que je veux travailler dans le monde du livre et de l'édition. Puis on sait que le métier d'auteur bah, n'est pas très valorisé. Bien au contraire, on gagne encore peu, même si on essaye de lutter, bah, qu'il y ait quand même une reconnaissance. Parce que pour moi, un livre, c'est comme donner naissance à un enfant. Hein. C'est très compliqué, il y a énormément de choses à faire. Le processus créatif est extrêmement épuisant. Il faut absolument que je fasse quelque chose à côté, sinon c'est pas possible.
Je pense que ça enlève... On avait le débat avec Lisa Bergeron, une jeune autrice qui a écrit un recueil de poèmes, et elle nous a à peu près dit la même chose. On s'est dit que c'est vrai que ça enlevait peut-être un peu le plaisir, aussi le fait que quand c'est ton métier, t'as des deadlines à respecter, t'as peut-être des maisons d'édition parfois qui te mettent la pression en te disant « Non, je veux pas que t'écrives ça, plutôt comme ça », enfin qui te modèlent un peu, et en fait ça enlève peut-être un peu le plaisir d'écrire juste parce que ça vient de vous et que... peut-être plus modelé aussi
Il y a le stress aussi de rendre des versions et de jongler entre les partiels, la correction et la relecture. C'est que des fois, mon éditeur m'a dit ce passage-là, c'est un petit peu dénaturé. Peut-être qu'il faudrait que ce soit un peu plus ta plume parce que c'est trop mécanique. Mais en fait, avec le stress, on n'y arrive pas. On écrit parce qu'on est stressé, il faut absolument le rendre. Et en fait, ça dénature complètement le roman. Donc il y a des passages que j'ai dû reprendre plusieurs fois parce que justement, il n'y avait pas assez de ma plume. L'automatisme, il fallait vraiment que je m'imprègne des scènes. Et ouais, c'est des fois, c'est très pesant. Donc c'est pour ça que j'écris pas tous les jours. Et c'est pour ça qu'après le son du bonheur, j'ai arrêté d'écrire parce qu'il faut vraiment que je sois au calme, hors du cursus universitaire. Et c'est pour ça souvent que j'écris l'été, en plus d'un job étudiant, parce que justement, j'ai plus les dossiers, les exposés, je suis posée, je peux vraiment m'imaginer mon histoire tranquillement, et j'ai pas tous ces éléments qui polluent justement mon processus d'écriture, quoi.
Donc pas d'autres projets en cours pour le moment?
Alors si, mais c'est juste au brouillon. En fait, ce que je voulais dire par processus d'écriture, je peux écrire par exemple un brouillon, ça y a pas de problème, je sais que j'ai pas besoin d'être forcément concentré entre guillemets, mais je n'écris pas un premier jet. Mais j'ai un projet de roman que j'ai déjà envoyé à plusieurs maisons d'édition, donc j'espère avoir des réponses.
On l'espère aussi.
Je fais une séance de dédicace à la librairie Page et Plume. C'est le 25 janvier, donc 2025, de 10h à 18h. Donc si vous voulez me rencontrer et discuter avec moi, ce serait avec grand plaisir.
Bah super, écoute, merci beaucoup Zoé d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir parlé un petit peu de ton roman. Vous pourrez le retrouver sur le site nouvelleéditionmagalite.com et également dans le magasin Stronzo à Limoges. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau magazine culturel.
C'était le magazine culturel sur RTF. Retrouvez-nous également sur internet rtflimoges.com.